Bonjour, bel après-midi en ce dimanche 5 mai 2013. Bienvenue à vous, chers frères et sœurs, ici dans cette pièce, chers frères et sœurs, en ce moment devant vos haut-parleurs pour faire grandir ce groupe semaine après semaine autour de la non-dualité, autour des enseignements qui nous parlent de vérité, de réalité. Voilà, avant d'aller plus loin, je vais nous inviter collectivement à écouter ce son qui sort d'un vaisseau de cristal, comme on les appelle, et sur cette note Fa qui correspond au chakra du cœur, à nous laisser vibrer ensemble pendant quelques secondes. Voilà, un vaisseau de cristal qui vibre très longtemps, qui est extrêmement sensible et réceptif à toutes les vibrations dans l'environnement. Alors, je vais présenter le groupe en quelques phrases. Et puis ensuite, nous serons libres de partager quelque expérience que ce soit, dont le seul but est de nous aider les uns les autres à nous rappeler de cette réalité inchangée, ultime. Nous sommes un. Il n'y a que Dieu, et Dieu est toute la réalité, et nous en faisons partie. Comme dit la leçon 191 que j'ai tirée tout à l'heure, je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même. Et accroché à celle-là qui a voulu sortir en même temps qu'elle, étonnamment, la leçon 246 qui dit « Aimer mon Père, c'est aimer son Fils, puisqu'il n'y a que Dieu », encore une fois. Voilà, dans cet après-midi, il n'y a pas de direction particulière. La direction sera donnée par l'Esprit. Et puis, pour ma part, c'est aussi lui que j'écouterai en ce qui concerne intervenir, ne pas intervenir, rester en silence ou parler. Et je le laisserai aussi inspirer mon esprit pour laisser surgir des idées, des pensées pour cet après-midi. Alors, j'ai indiqué un titre qui revient fréquemment, « Cultiver le bonheur d'être soi ». Voilà, ce bonheur que nous avons tous en nous en tant que graines et qu'il convient de, sur laquelle il convient de se pencher, d'être disponible, de lui attribuer du temps pour la laisser croître jusqu'à ce que cette vérité-là devienne tout ce qui existe pour nous. En tant qu'humain, ça représente un processus de du sommeil profond vers l'éveil, mais en tant qu'être esprit, ça se fait dans le non-temps et nous sommes déjà là où nous souhaitons être en tant qu'humain. Tout ceci peut être résumé très succinctement dans ces trois phrases qui apparaissent dans la préface d'Un cours en miracle. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe, en cela réside la paix de Dieu. Voilà, tout ce qui un jour cessera d'être, tout ce qui est menaçable n'est pas réel, est une manifestation de l'esprit divisé en moi, qu'on appelle aussi l'ego, qui veut croire que autre chose que Dieu existe, que autre chose que l'amour existe, et veut faire l'expérience d'une illusion qui est menaçable, hein, dans laquelle les choses vont et viennent, les gens naissent et meurent, on connaît des émotions qui passent par des opposés, dans laquelle il y a un opposé à l'amour qui est la peur, dans laquelle aussi il y a du temps et qui permet de séparer les choses et les expériences et les individus. Alors tout ceci est irréel, il n'existe pas, mais nous en faisons quand même l'expérience. Hein, au niveau esprit, nous en faisons l'expérience et nous nous donnons aussi les moyens de fabriquer de toutes pièces cette dualité, mais avec un pouvoir réellement divin qui fait que nous ne doutons pas un instant tant que nous n'avons pas entrepris le voyage du retour et même pendant que cette illusion est réelle pour nous, elle est manifeste, elle est tangible, elle est concrète. Mais rien de réel ne peut être menacé. Donc seul l'amour est éternel, inchangeable, invulnérable. Seul Dieu existe et rien ne pourra jamais menacer Dieu. Donc nous pouvons seulement par ces quelques premiers mots, nous reposer dans cette confiance absolue que Dieu est, et Dieu a toujours été, et Dieu sera, même si ces temps-là, passés et futurs, sont aussi notre création, notre imagination. Voilà, on peut parler de ces quelques directions aujourd'hui, comment pacifier notre vie avec le véritable pardon, incluant aussi un processus de pardon que donne Gary Renard dans son livre « Et l'univers disparaîtra », qui peut nous aider à mettre en mots ce que c'est que le véritable pardon. Comment nous pouvons, dans cette vie, choisir d'être heureux plutôt que d'avoir raison? Comment identifier l'ego comme la croyance d'être séparé? Comment aussi être dans ce monde de dualité sans être du monde de la dualité? Comment la vraie guérison est de l'esprit et non du corps? Qu'est-ce que la nature du voile de séparation? Qu'est-ce que le plan divin pour l'humanité et en quoi le monde subtil qu'on appelle l'esprit, le Saint-Esprit, le pur esprit ou même l'intuition est toujours à nos côtés pour nous fournir de l'aide à condition que nous y fassions appel puisque nous avons une notion importante qui est le libre arbitre. Nous avons choisi cette expérience de dualité en toute connaissance de cause. Ensuite, nous avons soigneusement voilé notre esprit pour ne pas nous rappeler que nous l'avons fait, sinon l'expérience n'aurait pas duré. Et ensuite, nous avons plongé dans cette expérience qui tente à nous faire croire que tout est séparé, y compris nous, des autres. pour avoir le bonheur de revenir à la maison, de revenir dans la joie et dans l'amour, dans la félicité, partant d'une noirceur absolue et sans aucune aide extérieure. Sans aucune aide jusqu'à ce que nous décidions de la demander, hein, je précise quand même. Mais c'est notre choix également, hein. Il ne saurait être question d'être enfermé dans une impasse dans laquelle il n'y a aucune porte de sortie. La porte de sortie, c'est je veux la vérité, hein, je veux la lumière, que la lumière soit. Et je veux de l'aide aussi pour sortir, pour retrouver le chemin de qui je suis véritablement. Alors, comme il n'y a pas de boss, de chef pour cet après-midi, qui est entièrement sous la direction de l'esprit, je vais me le rappeler au moyen de 5 phrases puissantes pour moi, qui apparaissent en page 30, très tôt dans Un cours en miracle, et qui parlent de confiance absolue, et qui disent « Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. » Et assurément, dans cette réunion, assurément avec toi qui écoute en ce moment cet enregistrement, nous sommes accompagnés, puisque nos esprits sont joints dans cette intention. Je veux la vérité. Je veux me rappeler de la vérité, de la seule vérité qui existe. Et puis j'ai été amené cette semaine à être mis en contact, je dirais, avec un très beau texte qui a été cité en anglais avec une voix magnifique et qui a été quand même sous-titré en français. Et j'ai à cœur de vous lire la profondeur de ces paroles avant de laisser le micro pour nos partages, hein, d'aujourd'hui. Peut-être pourrons-nous aussi trouver ces phrases comme une base pour un développement de l'esprit qui nous rassemble ici, un éveil aussi. Alors, je donnerai aussi les références si je les retrouve. Je pense que je peux les donner lors de l'invitation du prochain groupe. Toute pensée que vous avez eue sur vous-même, qu'elle soit sous-évaluée ou surévaluée, n'est pas ce que vous êtes. C'est simplement une pensée. La vérité de qui vous êtes réellement ne peut être pensée, parce que c'est la source de toute pensée. La vérité de qui vous êtes ne peut être nommée ou définie. Des mots tels que âme, lumière, Dieu, vérité, soi, conscience, intelligence universelle ou divinité, bien qu'ils puissent évoquer la grâce de la vérité, sont de très loin insuffisants pour décrire l'immensité de qui vous êtes réellement. Quelle que soit la façon dont vous vous identifiez en tant qu'enfant, adolescent, une mère, un père, une personne âgée, une personne en bonne santé ou malade, une personne en souffrance ou une personne éveillée. Toujours, derrière tout cela, se trouve la vérité de votre être. Cela ne vous est pas étranger. C'est si proche que vous ne pouvez imaginer que vous êtes cela. La vérité de votre être n'est affectée par aucun concept sur qui vous êtes, ignorant ou illuminé, sans valeur ou extraordinaire. La vérité de votre être est libre de tout cela. Vous êtes déjà libre, et tout ce qui empêche la réalisation de cette liberté est votre propre attachement à une pensée de qui vous êtes. Cette pensée ne vous empêche pas d'être la vérité de votre être. Vous l'êtes déjà. Elle vous sépare de la réalisation de qui vous êtes. Je vous invite à laisser votre attention plonger dans ce qui a toujours été ici, attendant patiemment sa propre réalisation. Qui êtes-vous vraiment ? Êtes-vous une image apparaissant dans votre esprit ? Êtes-vous une sensation apparaissant dans votre corps ? Êtes-vous une émotion traversant votre âme et votre corps ? Êtes-vous ce que quelqu'un d'autre a dit de vous ? Ou êtes-vous la révolte contre quelque chose que quelqu'un a dit de vous ? Ce sont quelques-unes des nombreuses identifications erronées. Toutes ces définitions vont et viennent. Elles naissent, puis meurent. La vérité de ce que vous êtes est immuable. Elle existe avant la naissance, tout le long de la vie et après la mort. Découvrir la réalité de qui vous êtes vraiment est non seulement possible, mais c'est votre droit de naissance. Toute pensée qui dit que cette découverte n'est pas pour vous, que ce n'est pas le bon moment, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas prêt, que vous savez déjà qui vous êtes, sont simplement des astuces du mental. Il est temps d'enquêter sur cette pensée « je » et de regarder si elle a une quelconque valeur. Dans ce travail d'introspection, s'ouvre une porte pour que l'intelligence consciente que vous êtes se reconnaisse enfin elle-même. La question la plus importante que vous pourrez jamais vous poser est « qui suis-je ?» D'une certaine manière, cette question a été implicitement posée à chaque étape de votre vie. Chaque activité, qu'elle soit individuelle ou collective, est motivée à la base par une quête de définition de soi. En général, vous cherchez une réponse positive à cette question et vous fuyez devant une réponse négative. Une fois cette question devenue centrale, l'énergie et la puissance de la question dirigent la quête de la véritable réponse qui est illimitée, vivante et dont la profondeur n'a cesse de se creuser davantage. Vous avez connu des succès et des échecs. Au bout d'un certain moment, tôt ou tard, vous réalisez que ce que vous êtes, quelle que soit la façon dont cela est défini, n'est pas satisfaisant. Tant que cette question n'aura pas reçu de véritables réponses, au-delà des réponses conventionnelles, vous aurez toujours soif de savoir. Parce que, quelle que soit la façon dont vous avez été défini par les autres, de manière bien intentionnée ou non, et quelle que soit la façon dont vous vous êtes défini vous-même, aucune définition ne peut apporter de certitude durable. Cette prise de conscience qu'aucune réponse n'a jamais été satisfaisante pour répondre à cette question est cruciale. On l'appelle souvent l'instant du mûrissement spirituel, l'instant de la maturité spirituelle. À cet instant, vous pouvez consciemment examiner qui vous êtes vraiment. dans sa puissance et sa simplicité, la question « qui suis-je ?» renvoie le mental à la racine même de l'identification individuelle, à l'hypothèse de base qui dit « je suis quelqu'un ». Au lieu de prendre machinalement cette hypothèse comme la vérité, vous pouvez aller chercher plus profondément en vous. Il n'est pas difficile de voir que cette pensée initiale « je suis quelqu'un » conduit à toute une variété de stratégies. Être quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui soit plus en sécurité, quelqu'un qui ait plus de plaisir, plus de confort, plus de réalisation. Mais quand cette pensée de base est remise en question, le mental rencontre le « je » qui est considéré comme séparé de ce qu'il était en train de chercher. On appelle cela l'investigation du soi. Cette question fondamentale, « qui suis-je ?» est la question la plus négligée. Nous passons le plus clair de notre temps à nous dire et à dire aux autres que nous sommes quelqu'un d'important, quelqu'un d'insignifiant, quelqu'un de grand, quelqu'un de petit, quelqu'un de jeune, quelqu'un de vieux, sans jamais vraiment remettre en question l'hypothèse la plus fondamentale, « qui êtes-vous vraiment ?» Comment savez-vous que c'est ce que vous êtes ? Est-ce que c'est vrai ? Vraiment ? Quand vous portez votre attention sur la question « qui suis-je ?», peut-être verrez-vous une entité qui a votre visage et votre corps, mais qui est conscient de cette entité ? Êtes-vous l'objet ou êtes-vous la conscience de cet objet ? L'objet apparaît et disparaît. Le parent, l'enfant, l'amant, le délaissé, l'éclairé, le victorieux, le battu. Ces identifications apparaissent et disparaissent. La conscience de ces identifications est toujours présente. L'identification erronée de vous-même, en tant qu'objet dans la conscience, conduit au plaisir extrême, ou à la souffrance extrême et au cycle sans fin de la souffrance. Quand vous êtes prêt à mettre fin à cette identification erronée pour découvrir directement et entièrement que vous êtes la conscience elle-même et non pas cette définition impermanente, la recherche de votre être par la pensée se termine. Quand la question « qui ?» est poursuivi de manière innocente et pure, jusqu'à sa source même, une gigantesque et stupéfiante prise de conscience se produit. Il n'y a là aucune entité. Il n'y a qu'une reconnaissance indéfinissable et sans limite de votre être comme étant uni au tout. Vous êtes libre, vous êtes entier, vous êtes illimité. Il n'y a ni fond, ni frontière à votre être. Toute idée sur vous-même apparaît en vous et disparaîtrait de nouveau en vous. Vous êtes la conscience de tout ce qui est, et la conscience de tout ce qui est la conscience. En cet instant, laissez s'éteindre toutes les définitions de vous-même. Laissez-les aller et regardez ce qui reste. Observez ce qui n'est jamais né et ce qui ne meurt jamais. Sentez le soulagement de lâcher le fardeau d'avoir à vous définir. Faites l'expérience de la non-réalité de ce fardeau. Faites l'expérience de la joie présente ici. Reposez dans la paix sans fin de votre véritable nature avant que naisse toute pensée du « je ». Voilà, ce sont des paroles tirées d'un livre anglais dont je n'ai pas la référence actuellement, qui sont disponibles en audio, en anglais. Le ton de cette voix est d'une beauté que je mets immédiatement en rapport avec la beauté de notre nature véritable, extrêmement inspirée. Et peut-être aurez-vous l'intuition aussi, même sans comprendre l'anglais, d'écouter le ton de cette voix qui porte en lui la réalité de qui nous sommes et cette motivation à répondre à cette question véritable. Qui suis-je ? Et c'est aussi une vidéo qui est sous-titrée en français, et ce texte vient des sous-titres officiels associés à cette vidéo. Voilà, j'ai tenu à vous le partager parce que j'ai été vraiment touché par les mots, la profondeur et la portée de ces quelques phrases. Et l'adéquation parfaite avec notre réunion en esprit ce jour. Voilà, et sur ce, je cède la parole à qui voudra prendre le relais.
Je me sens appelé à dire quelques mots à propos du jugement. Et j'ai envie, en même temps, de rire à propos du jugement, parce que c'est quelque chose qui est incroyable, généralisé à un point immense dans notre expérience humaine, et le jugement même, c'est ce qui permet l'expérience humaine. C'est aussi ce qui amène tôt ou tard la souffrance, le mal-être, les conflits, la maladie, la mort, vécues comme réelles, qui ne sont pas réelles d'ailleurs, puisque le jugement n'est pas réel. Le jugement, c'est le bien, le mal, comme il nous est dit dans la Bible avec l'histoire d'Adam et Ève, qui ont goûté l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si je raconte une histoire, par exemple, je dis, tiens, un voleur est rentré chez moi, je viens de faire un jugement. J'ai dit un voleur est rentré chez moi. Mais en fait, il n'y a pas de voleur. Est-ce que Dieu va qualifier son fils, qui il est? Est-ce que la vie va se qualifier elle-même de voleur? Ça n'a pas de sens. J'ai dit oui, c'est très bien, bon, ok. Mais ça, c'est une pensée perverse, j'ai fait un jugement. Bon, je vais aller dans un hôpital psychiatrique où il y a des fous, j'ai fait un jugement. Oui, mais il y a des psychiatres qui s'occupent des fous, j'ai fait un jugement. J'ai qualifié quelqu'un de psychiatre. Oui, mais il y a des thérapeutes qui sont utiles et qui aident les gens, je viens de faire un jugement. Donc le monde que nous vivons est construit par les jugements. Bien sûr, la façon dont je suis en train d'en parler peuvent donner à penser que je critique ou que ça serait pas bien, ça serait encore un jugement. En fait, c'est simplement une observation qui nous montre comment nous avons construit à un échelon incroyable l'expérience de la dualité, l'expérience de la séparation, l'expérience où tout apparaît en haut, en bas, en bien, en mal, en chaud, en froid, en mieux, en moins bien, etc. Et c'est comme ça. Et il y a un éclat de rire parce que nous avons choisi ces expériences. Effectivement, mais qui a choisi? C'est qui nous sommes, comme Ali vient de nous donner un texte, là, c'est qui nous sommes. Mais qui nous sommes, c'est qui? Ben, c'est qui nous sommes. Dieu, la vie, la lumière, l'état d'être éternel, non menacé. Au-delà du temps et de l'espace, tout ça c'est des mots qui sont utilisés justement dans un monde de jugement. Ce monde de jugement, on peut dire, on peut, si ça aide, dire que c'est un terrain de jeu, un bac à sable extraordinaire, universel, cosmique, gigantesque, un terrain de jeu, un terrain d'expérience infini, infiniment varié, avec des mondes, comment dire en anglais, worlds upon worlds, universe upon universe upon universe, comme ça à l'infini. Et ça, c'est imaginé par l'un que nous sommes, par le non-duel, par la non-dualité. Le terrain de jeu, justement, c'est un terrain qui suppose effectivement un percevant et un perçu, donc quelque chose qui n'est pas ce qui est perçu, quelque chose qui perçoit. Dans la réalité divine, dans l'absolu, il n'y a pas de percevant et de perçu, il y a l'état d'être, il y a l'immanence, permanence, il n'y a pas de mots, évidemment. Parce que nous sommes en train de parler ici de cela dans l'expérience humaine qui est faite avec des jugements. Un tel est grand et petit, c'est un homme, c'est une femme, c'est un corps physique, etc. Non, non. Non, non. Oui, bien sûr, on a l'impression très forte que c'est comme ça. C'est fait exprès. Et c'est très bien joué, magnifique, c'est incroyable. C'est une puissance hallucinante quand on commence à regarder en face. Et tout à l'heure, Avi nous parlait d'être piégé dans cette prison, cette prison qui est imaginée, mais tellement bien imaginée qu'on y croit. Et si je crois que je suis pauvre, bien, si je crois que j'ai pas d'argent, ben je vis l'état de ne pas avoir d'argent. Si je crois que je suis rejeté par mes frères et mes sœurs, je vis l'état d'être rejeté par mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que je suis esprit, et il n'y a que l'esprit. Et donc l'âme que je suis, je ne sais pas ce que c'est l'âme que nous sommes, ou que je suis, qui a choisi des expériences, cette expérience humaine, elle vit ses croyances. Elle vit son conditionnement qu'elle a accueilli et accepté, qu'elle a voulu. Profondément, elle l'a voulu, en pleine connaissance de cause. Il ne peut pas en être autrement à cause de la nature de ce qui est, de l'être-té de « il n'y a que Dieu, Dieu est tout ce qui est ». Et donc à l'origine d'un temps qui n'existe pas, il y a l'esprit un absolu et il n'y a que ça. Et maintenant, au moment où je parle ici, dans ce temps illusoire, il n'y a que ça. Alors on va dire, mais comment ça se fait qu'il y ait une cohérence incroyable dans ce monde, avec des atomes partout, des vibrations, la matière. Est-ce que c'est des ondes? Est-ce que c'est des particules? Ceci, cela? Est-ce que tout ça, c'est incroyable? On retrouve des atomes de carbone, d'hydrogène, etc. dans l'univers entier. On observe un monde fantastique, incroyablement imaginé, qui fonctionne ensemble d'une manière stupéfiante, dans un équilibre. Alors on va qualifier ça qui est un équilibre qui est créé par le grand horloger cosmique. Et nous voici au milieu de ça. Mais qui c'est nous? C'est l'illusion d'être un petit personnage qui, évidemment, n'a aucun pouvoir sur cette horloge cosmique. Parce que cette expérience de dualité, justement, elle est illusoire. Donc elle est extraordinaire d'aller s'imaginer un petit corps, être un petit corps quelque part. Et je le fais avec des jugements. C'est ce qu'on apprend aux enfants. L'enfant sort, l'enfant est vierge de tout conditionnement. Ça ne veut pas dire que son âme est vierge. Son âme a choisi soigneusement ses parents, ses conditions de vie, pour certaines expériences particulières. Ça a été choisi avec soin dans tous les détails. Mais consciemment, l'enfant est complètement innocent de tout ça, provisoirement. C'est pour ça que Jésus nous disait « Redonnez comme des petits-enfants ». Ça a vraiment un sens. Et l'enfant ne prétend rien savoir. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il observe. Donc, il n'a pas d'attente, donc pas de jugement. Donc, cette notion de jugement devient fondamentale. On va dire comment, mais il faut quand même avoir un peu des jugements, essayer de savoir quelle va être la meilleure banque, quelle va être le meilleur compagnon, la meilleure compagne, ou qu'est-ce que je vais faire comme travail, dans quelle école je vais aller, est-ce que je vais avoir des enfants ou pas d'enfants, etc. Donc, je vais avoir des choix à faire. Qui fait ces choix? Ben, c'est moi, mais qui suis-je? Effectivement, on revient à cette question. Qui suis-je? Ben, je suis, voilà, un homme, une femme, j'ai des choses à faire. Et puis, j'ai un corps, peut-être que c'est pas vrai, mais en attendant, il y a des lois. Il y a des lois physiques, parce que si je ne nourris pas ce corps, il va dépérir. J'ai reçu avec une amie récemment, le message suivant à propos de la nourriture, mais vous allez voir qu'il est beaucoup plus fort. Il est beaucoup plus élargi que simplement la nourriture. Ce message est très simple, et c'est le suivant. Le pouvoir de l'esprit prime sur le pouvoir de la nourriture, mais vous n'utilisez pas ce pouvoir, ou très peu. Et donc je vais élargir ce message de la manière suivante. Le pouvoir de l'esprit prime sur le pouvoir de la matière, mais vous n'utilisez pas ce pouvoir, ou très peu. Oui, mais j'ai choisi une expérience humaine, donc je suis ici, soumis des lois humaines physiques. Mais qui a choisi moi? Qui suis le créateur de mon expérience? Pas le petit personnage que je crois être. Je me suis enfermé dans une petite prison, là, à part des jugements. Mais qui suis-je, c'est cela, avec un C majuscule, qui fait tout. Et c'est cela que je vais laisser faire. Et j'ai tiré la leçon, là, avant ce groupe, qui est une des dernières leçons du cours, qui est la leçon 328. C'est la suivante. Je choisis la seconde place pour gagner la première. J'ai choisi la seconde place pour gagner la première. Qu'est-ce que c'est que cette seconde place et qu'est-ce que c'est que cette première place? Dieu est tout ce qui est. Et il y a une invitation à toujours revenir à la vérité, à ce qui est la base. C'est la non-dualité. Il n'y a que Dieu et rien d'autre. Donc ça veut dire en clair, il n'y a qu'une place. Donc quand on parle de première place, c'est la première, mais il n'y a pas de seconde place, il n'y a pas de troisième. Et pourtant, voilà que la leçon nous dit, j'ai choisi la seconde place pour gagner la première. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, encore une fois, c'est une invitation à jouer le jeu de la dualité, mais en amour. Et qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est l'accueil. Donc, j'arrête autant que possible mes jugements. J'arrête autant que possible de m'opposer à ce que je crois percevoir, à ce que je crois être. J'arrête de tenter de m'opposer aux croyances de mes frères et sœurs ou de les vouloir autrement et de vouloir qu'un voleur ne vole plus ou quelqu'un qui a un cancer arrête d'avoir un cancer ou tout ce qu'on veut. Bref, comme ça à l'infini, j'arrête tout ça. Et je commence à être vraiment dans le vrai pardon dont parle le courant miracle, qui est encore très peu compris. C'est le Ho'oponopono, pardonne-moi d'avoir eu le moindre jugement que Dieu lui-même n'a pas fait. Le cours parle comme ça. C'est un jugement que Dieu lui-même n'aura jamais fait. Il est toujours extrêmement utile de se dire dans toute situation, est-ce que Dieu va parler comme ça? Est-ce que Dieu parle de voleur, puisque Dieu est tout ce qui est? Est-ce que Dieu parle de mort, puisque Dieu est la vie, c'est le vivant? Est-ce que Dieu parle de manque? Est-ce que Dieu parle d'assurance bancaire, de contrat de mariage, de... Non. Oui, mais alors il faut arrêter. Non, on n'arrête rien du tout. Au contraire, on joue ce jeu-là. On joue le jeu de la dualité, mais avec un autre regard. Avec la sensation de s'amuser, comme dans une cour de récréation. Comment on s'amuse, mais attends, regarde autour de toi et tu vas voir si les gens s'amusent. La plupart des gens ont des grosses difficultés apparemment, des situations impossibles, des défis insolubles, etc. Absolument, absolument. C'est ça le terrain de jeu. On est venu ici avec des défis pour les transcender. Qu'est-ce que ça veut dire les transcender? Ça veut dire voir qu'il n'y avait pas de défi, que c'était imaginé, c'était inventé, ce n'est qu'un rêve. Et là, on commence à mieux comprendre pourquoi, profondément, vraiment, en toute vérité, ce monde n'est pas réel. Ce qui est réel, c'est l'esprit que nous sommes, c'est qui nous sommes. Ça, c'est esprit, c'est éternel et non menacé. Comme dit la courte introduction du cours au miracle, que nous a rappelé Avi tout à l'heure. Donc le jugement fait partie de cette expérience humaine. Quelque part, il construit l'expérience, il la permet. Mais la merveille, c'est de l'observer pour ce que c'est, de le voir. Et le fait de le voir, de l'observer, fait que ça n'a plus d'impact. Alors bien sûr, je continue à vivre l'expérience d'être un corps masculin ou féminin, d'avoir des besoins, d'avoir faim, d'avoir envie de manger ou de ne pas manger, d'avoir envie d'être seul ou en compagnie, etc. D'avoir envie de créer quelque chose, au contraire de ne rien faire, de rester au lit, au contraire de me lever tôt. Ce que je sens pour l'instant, je le fais, je le sens. J'accueille totalement l'instant présent. Dans ma petite vie, qui est dérisoire, même si je suis président de la République, c'est dérisoire. C'est un petit corps qui dort dans un lit, qui prend un ou deux ou trois repas par jour, et puis voilà. Il y a un cerveau, il y a un sexe, et puis il y a une apparence de fonctionnement chez un individu. Il y a des rôles qui apparaissent. Mais qui je suis, c'est pas ça. Qui je suis, c'est pas d'être un petit enfant qui meurt de faim dans le Sahel ou président de la République de quelque part. Donc, qui je suis, c'est qui je suis, c'est qui nous sommes. Et nous sommes un. Alors on va dire, mais... Tout à l'heure, tu as parlé d'âme. Donc il y a des âmes, donc il y a une âme et puis une autre âme et puis encore une autre âme. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. On emploie des termes, on est habitué les uns les autres à employer des termes. Ça nous aide à communiquer et ça nous aide à pointer vers quelque chose ensemble, à découvrir quelque chose qui est découvert par le cœur, quelque chose qui est déjà en nous, que nous, c'est qui nous sommes. Et ça, c'est infini. Et on se sert de mots. Donc, par exemple, le mot âme. Et le mot âme, on peut dire que c'est rapport avec une identité divine, c'est la totalité de Dieu qui s'exprime dans une âme individuelle, divine et infinie. Mais l'infini, c'est l'infini. Donc on peut dire, est-ce qu'il y a une âme, des milliards, des milliards, de milliards d'âmes, ou une seule âme? n'y a pas de réponse. Il n'y a jamais de réponse. Et là, on revient à cette leçon dont je parlais tout à l'heure. Je choisis la deuxième place pour gagner la première. Qu'est-ce que c'est que cette deuxième place? Eh bien, on peut dire que c'est le lâcher prise. C'est je te laisse me diriger à chaque instant. Dans les cinq phrases que Avin nous a citées tout à l'heure, la troisième, c'est « Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. » Voilà la deuxième place. « Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. » Ça veut dire « Je prends la deuxième place et je le laisse me diriger. » Mais je laisse qui? Dieu, mais il n'y a que Dieu. Donc je laisse moi, l'esprit Christ que je suis. Mais que j'ai oublié, je me suis amusé à jouer. À ne pas être, à imaginer ne pas être qui je suis. Donc ça me met dans une prison, ça m'enferme quelque part, dans un monde de dualité, un monde où je me sens isolé. J'ai fait exprès pour m'amuser, pour imaginer la séparation, impossible. Mais pourtant c'est très très bien imaginé. Et donc mais c'est tellement bien imaginé, avec toute la puissance divine que nous sommes, c'est que ça paraît réel. Et donc je prends la deuxième place, en le laissant. Mais quand? Demain? Hier? Non, maintenant, puisque c'est que maintenant. Donc il n'y a que le moment présent. Donc c'est très simple. À chaque instant, c'est une invitation à le laisser me diriger. Ah oui, mais si j'ai un problème urgent, il faut que je trouve de l'argent pour payer mes impôts dans 10 jours. Oui, absolument. Où j'ai, par exemple, comme Raymond ici qui nous parle sur son expérience, où j'ai apparemment un cancer très développé et puis ce corps va s'arrêter. Oui, absolument. Oui, c'est pas nier ça. Oui. Je le laisse me diriger dans l'instant présent. Ah oui, mais c'est pas facile parce que bon, il y en a qui ont de la chance. Peut-être que Raymond ici, elle a eu la force de faire son expérience finalement d'observer le cancer qui a disparu. Mais c'est son expérience. Mais moi, est-ce que j'ai cette expérience-là? Moi, j'ai peur. Oui, absolument, c'est pas nier ça. On est tous sur le même travail ici. Cancer par cancer, argent par argent, relation par relation, attendant. On est 7 milliards d'individus, qui nous croyons des individus, avec un corps particulier, et on est ensemble dans une expérience humaine de dualité. Où tout est fait avec le jugement, avec des jugements. C'est bien, c'est pas bien, ça serait mieux si, etc. Donc le fait de le regarder en face, de ne pas fuir, effectivement, la découverte de la liberté que nous avons toujours été. De la puissance que nous sommes, nous avons le pouvoir sur tout. Ça passe par l'observation. On retrouve ce que je disais tout à l'heure, Jésus qui nous disait il y a 2000 ans, redevenez comme des petits enfants. C'est ça, dans un sens sérieux, entre guillemets. Parce que quelque part ça fait sourire, parce que tout ça c'est une même blague. Tout va bien, on n'est jamais sorti, tout ça c'est imaginé. On est en pleine compassion, on est en pleine compréhension, en accueil, en amour. On est en relation amoureuse, c'est-à-dire en relation d'accueil. Le jugement, il est général ici. Partout, il y a des jugements. Et effectivement, on voit que ces jugements ont des conséquences apparemment désastreuses. Et la relation amoureuse que nous sommes invités à avoir, c'est justement de ne plus juger le jugement. De rire, car il dit oui, nous avons choisi d'imaginer le groupe. C'est-à-dire le personnage séparé, qui doit juger. Donc il est terrifié, donc c'est immédiatement l'attaque et la défense, donc tout est jugé. C'est pour ça qu'on va attention à se motiver avant de sortir, à essayer de. Et ça rentre un peu sur les plages, on a peur du jugement. C'est beaucoup, beaucoup plus vaste que l'on pense. Regardez, en groupe, si vous regardez cet exercice qui consiste à se regarder dans les yeux, et bien souvent, il faut beaucoup d'apprentissage pour pouvoir soutenir le regard de l'autre dans les yeux pendant 10 minutes ou plus. Tandis que vous pouvez le faire avec un enfant ou un animal. Vous regardez un chien dans les yeux, vous regardez un petit enfant de 1 an ou 2, vous pouvez le regarder pendant 10 minutes, c'est pas un problème. Pourquoi ? Mais parce que vous ne vous sentez pas jugé. C'est tout. Vous avez envie, ça. Donc quand vous avez du mal à soutenir le regard de l'autre quelques secondes dans un groupe ou en individuel, c'est parce que vous avez inconsciemment l'impression d'être jugé. C'est parce que c'est ce jugement qui est en vous, qui est général. Il est considérable, il est gigantesque. Mais il fait partie de cette expérience et ok, bienvenue le jugement. Et le fait de l'accueillir, bah c'est ça l'amour. C'est j'accueille. Ah oui, j'accueille mon expérience pleine de jugement. Aïe, ok. J'accueille aussi mes frères et sœurs. J'accueille aussi la peur chez eux ou le sentiment d'être pas à la hauteur, le sentiment de se sentir coupable, d'avoir des doutes. Ben oui, je l'accueille, bien sûr. J'accueille tout le monde, j'accueille toute cette société qui s'écroule avec ses corruptions, ce pouvoir qui est en train de... On est en train de découvrir que même les religions partout, ça a été des abus incroyables. Mais il n'y a pas de jugement. Est-ce que Dieu va juger quiconque ? Dieu ne juge pas. Il aime. Il aime, c'est tout. Et c'est tout. Et c'est pour ça que c'est vrai que notre société est en train de changer complètement. C'est vrai que la manière dont nous interagissons les uns avec les autres est en train de changer complètement. Seulement, la beauté de la chose, c'est pas d'aller dénoncer les coupables. Parce que là, c'est perdu d'avance. Non, la beauté de la chose, c'est d'aimer. C'est de comprendre. Mais bien sûr, on est 7 milliards à avoir joué le même jeu, ensemble, ce jeu qui crée des Hitler, des Kadhafi, etc., qui sont simplement le produit de l'état de conscience général. Et qu'est-ce que c'est qu'un état de conscience général ? C'est une somme d'états de conscience particuliers. Et c'est pour ça qu'un seul suffit. Comme dit Jésus dans le courant miracle, combien il en faut pour sauver le monde ? Un seul suffit. Et dis-moi, j'ai transcendé le monde, le travail est fait. Dit Jésus, très clairement dans le courant miracle. Réjouissez-vous. Suivez mes pas. Le monde dépend de vous pour être sauvé. Bien sûr, il est sauvé, mais c'est votre état intérieur qui a un sens, c'est-à-dire votre non-jugement. Donc on accueille totalement les jugements, on a totalement le monde de la dualité, en amoureux de l'expérience, et c'est cet amour de l'expérience qui fait qu'elle est totalement transformée. On y bouge ensemble dans la lumière qu'on n'a jamais quittée, mais qu'on a cru. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Une harmonie incroyable, des miracles. Et donc ce petit titre un peu bizarre, là, un cours en miracle, commence à prendre un sens. On l'entend partout, on l'entend souvent dire « Laissez tomber vos jugements, arrêtez de juger. » Mais ce n'est pas des défenses, des obligations. C'est une invitation amoureuse où il n'y a pas de jugement. Donc l'invitation amoureuse où il n'y a pas de jugement, ça consiste à accueillir aussi les jugements, aussi bien les miens que ceux des autres. Nous retournons à un état d'amour absolu et total, sans aucun opposé. Il n'y a pas d'opposé à l'amour puisqu'il n'y a que l'amour. Alors évidemment, ça demande de la confiance. Et oui. Dans notre expérience, ici humaine, la seule attitude à laquelle nous sommes appelés, c'est le oui, oui à ce qui est là. Et la seule attitude aussi, disons, l'attitude, c'est la confiance absolue. C'est vrai que dans l'apparence, ce monde paraît absolument incroyable, chaotique, infernal, tout ce qu'on veut. Ça peut paraître comme ça si on va regarder vraiment en face. Donc avoir confiance au milieu de ce chaos apparent, évidemment, ce n'est pas une petite chose apparemment. Mais avec le regard de l'enfant, avec le regard amoureux, à ce moment-là, ça change tout. Et il y a un grand éclat de rire. rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. Et en cela réside la paix de Dieu.
Alors, j'ai été guidé à sortir de l'étagère « Et l'univers disparaîtra » de Gary Renard. Et j'ai aussi été guidé à parler du véritable pardon. Et le véritable pardon pourrait se résumer en ces quelques mots « La guerre est finie ». Drapeau blanc, je me rends, je m'abandonne, j'abandonne toute velléité de jugement, bien sûr. Et ce n'est pas le pardon qui constate qu'il y a un coupable et un innocent, c'est celui qui constate qu'il y a deux innocents, qu'il n'y a aucune culpabilité nulle part, que j'ai en face de moi quelqu'un ou même une situation que je croyais capable de m'attaquer, d'attaquer ma vulnérabilité, mon invulnérabilité, pardon. Et qu'en vérité, il n'y a que de l'amour qui joue sous différentes formes, avec des vagues d'amour en face de lui. Donc le véritable pardon, c'est, contrairement au pardon du monde, c'est se rappeler que nous sommes des esprits incapables de nous blesser les uns les autres, qui jouent pour se rappeler leur nature véritable, qui utilisent des formes pour manifester ce qui n'a pas de forme. Et donc Gary Renard donne un exemple de processus de pensée qui est inspiré du véritable pardon. Ce n'est qu'un outil, bien sûr, parce que le véritable pardon, c'est se réjouir du fait que ce que je croyais qui s'était passé, en vérité, n'a pas eu lieu. Hein, ce que je croyais qui pouvait me blesser n'a pas eu lieu, puisque seul Dieu est, et Dieu est incapable d'une quelconque violence ou agression. Et mon frère qui est en face de moi, ou ma sœur, est le représentant de cette lumière, de cette étincelle, et est un être d'amour pur si je prends le temps et la peine de me rappeler de qui il est par derrière les apparences. Et peut-être c'est là la chose la plus délicate de notre rôle humain, c'est de retrouver la nature de ce frère derrière les apparences, lorsqu'il est en train, entre guillemets, de me faire mal. Alors j'avais à cœur de donner cette petite introduction pour, avant de lire cet exemple de processus. Et Gary Renard dit ceci: tu n'es pas réellement là. Si je pense que tu es coupable ou que tu es la cause du problème, et si je t'ai inventé, alors la culpabilité et la peur imaginaire doivent se trouver en moi. Depuis que la séparation d'avec Dieu n'a jamais eu lieu, je nous pardonne à tous deux ce que nous n'avons pas réellement fait. Il n'y a plus maintenant que l'innocence et je me joins en paix avec le Saint-Esprit. J'aime beaucoup le passage « Depuis que la séparation d'avec Dieu n'a jamais eu lieu ». Voilà, ça, tout à fait paradoxal et très représentatif des deux niveaux de notre monde, hein, des deux niveaux possibles, réalité et illusion. Donc, depuis que la séparation n'a jamais eu lieu, le début est dans le monde séparé et la fin de la phrase est dans le monde réel. Et c'est ce que moi je ressens comme la poésie d'un cours en miracle. Je n'y comprends rien, mais je sais que c'est vrai. Voilà. Et je trouve que ces quelques phrases parlent de l'essentiel. C'est-à-dire, il n'y a pas de coupable. Quoi qu'il se passe en face, il n'y a qu'amour qui s'adresse à l'amour. Mais je peux choisir de voir autrement en m'accrochant à la culpabilité, à ma propre culpabilité et à celle de l'autre. Si je me considère innocent, je ne peux pas plus longtemps garder l'autre comme responsable ou coupable de ce qui s'est passé. Donc, je me réjouis d'abord de mon innocence absolue, hein, en tant que fils de Dieu. Voilà, ça me paraît important pour passer d'un monde à l'autre, du monde de la séparation au monde réel, au monde de la vérité, dans notre monde à nous humains, d'avoir des processus de pensée. Qui sont comme des guides, hein, des guides lumineux pour nous rappeler en permanence de la vérité, qu'il n'y a que Dieu et que tout le reste est invention et désir d'expérience, mais n'est pas réel pour autant. Et nous pouvons tout à fait faire nos expériences tout en n'oubliant pas qu'est-ce qu'est le monde réel. Et c'est ça, être dans ce monde sans être du monde. Hein, je peux choisir de continuer de jouer, de continuer d'être acteur, tout en sachant parfaitement qui je représente ici. Et donc chaque jugement est une occasion de pardon. Chaque plus petit jugement, chaque once de jugement, chaque millimètre de pensée erronée est une occasion de pardonner. Et l'occasion de pardonner, c'est aussi une occasion de se réjouir. Parce qu'il n'y a plus que l'innocence. Hein, lorsque je me rends compte du jeu réel, il n'y a plus que l'innocence. Et dans l'innocence, il ne peut jamais y avoir de souffrance. Donc le processus de pardon, c'est un processus d'abandon conscient de la souffrance. C'est pour ça qu'il est aussi important dans notre réalité, pour nous rappeler de notre vraie nature. Libre à chacun d'inventer son propre processus. Je me rappelle que lorsque je suis revenu de Bali, où il y a eu un enseignement de Jayem sur le pardon véritable, j'ai été guidé à ouvrir un cahier sur tous les coupables que je voyais autour de moi, tous les jugements que je voyais autour de moi, que j'émettais. La liste était longue, hein, et page après page, je remplissais, et c'était une étape importante pour moi pour me défaire de ces jugements-là. D'abord, oui, je croyais que tu m'avais fait ceci. Et les noms, voilà, ça cumulait. Et puis, j'ai pris le cahier et j'ai pardonné à la chaîne. Voilà. Tu ne m'as rien fait. Je me réjouis avec toi. Nous sommes tous les deux pardonnés. Hein, je ne vois que ta lumière. Je sais qui tu es. Je me rappelle qui tu es. Et ce que je dis à l'un est applicable à chacun, hein, et dans toute ma vie, et pour chaque pensée fausse de jugement que je peux avoir, ça peut être sur le monde, ça peut être sur une situation, ça peut être sur une personne, c'est exactement la même chose. C'est une pensée erronée sur qui je suis. Et comme je ne vois que des reflets partout dans le monde sur qui je suis, Alors, corriger cette unique pensée fausse corrige la totalité de ma vision fausse qui a inventé la séparation. Encore une fois, pour sauver le monde, je m'occupe de moi et que de moi. Que cela soit.
Merci, Avi. Bonjour, mes chers amis auditeurs. Moi, je trouve que le courant miracle, c'est jubilatoire, c'est joyeux, c'est léger, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Quelquefois, je me sens très lourde, c'est-à-dire que j'ai vraiment besoin d'expérimenter des épreuves costaudes pour ensuite me rendre compte que que ça peut être vraiment tellement différent. Il y a vraiment d'autres manières de faire, quoi, quand c'est plus l'ego qui est maître des lieux. Je suis en train de voir que la maladie que j'avais créée, fabriquée plutôt, qui a été déconstruite et comment dirais-je, dont l'esprit que l'esprit a remplacé par la guérison, me montre aujourd'hui combien j'étais mendiante de l'amour, combien j'allais chercher à l'extérieur ce que je pensais ne pas avoir en moi, et combien en même temps je réclamais l'amour, et en même temps quand il arrivait je fuyais, je prenais mes jambes à mon cou et je refusais. Donc je vois aujourd'hui combien j'ai refusé l'amour, combien j'ai refusé la liberté, tout en la revendiquant. Et aujourd'hui, je me vois tellement différemment, et l'autre aussi, je le vois tellement différemment. J'ai une fille qui a 22 ans, Et je me rends compte à quel point j'ai eu envie de la changer jusqu'à maintenant. J'aime pas sa musique, j'aime pas sa manière de se nourrir, j'aime pas comment elle s'habille, j'aime pas comment elle pense, j'aime pas comment elle parle. Et à chaque fois, j'avais envie qu'elle soit différente. Et tout à coup, j'ai eu une inspiration, une lumière. Je remets très, très régulièrement ma pensée, mon esprit à Dieu. Mais s'agissant de ma fille, j'y pensais pas. Et là, très récemment, je la regardais, elle était à côté de moi. Et tout à coup, je me suis dit, mais et si je faisais pareil, en fait, pour elle, dans cette relation-là de mère-fille, et si enfin j'arrêtais de vouloir la changer? Et tout à coup, il y a eu une vague d'amour, une inspiration qui est arrivée là, et je l'ai vue, mais complètement différente, complètement autrement. Et je vois bien que dans ses comportements, en fait, mais elle me montre que moi aussi j'ai peut-être des musiques pas géniales, que moi aussi je me nourris peut-être pas si bien que ça, que moi aussi je parle pas toujours très très bien, enfin bon. Voilà, et aujourd'hui je ris, et aujourd'hui je m'amuse, et aujourd'hui, oui c'est vraiment, vraiment jubilatoire ma vie au quotidien, parce que rien n'a plus d'importance en fait, il n'y a plus rien de grave. Je suis très contente à chaque fois qu'un événement, qu'une situation, qu'une personne me dérange. Alors effectivement, j'ai choisi le jugement pendant 53 ans, on va dire. Mais aujourd'hui, quand quelque chose me dérange, je frappe dans les mains, je suis heureuse, j'accueille, je me dis mais c'est merveilleux, voilà encore une occasion de changer, de grandir, d'être libre et de plus en plus libre et de me rapprocher de moi de plus en plus, donc de Dieu en moi. Voilà, c'est tout juste magnifique. Merci infiniment au Courant Miracle. Merci à vie de nous recevoir chez toi. Merci pour ces enregistrements qui sont un tel bonheur pour moi. Et merci à vous, chers auditeurs. À bientôt.
Merci Raymond, c'est vraiment un délice de t'entendre, de voir ton sourire et de sourire avec toi, de rire avec toi. Lorsque je traduisais le cours en 86-87, une partie du cours, une partie du texte, il y avait cette notion de voir le monde réel. Et je comprenais pas bien, et je sais que pour beaucoup, mais il est où le monde réel? Qu'est-ce que ça veut dire voir le monde réel? Qu'est-ce que c'est? Et puis le livre de Gary Renard qui s'appelle La disparition de l'univers, mais le titre en français ça a été traduit Et l'univers disparaîtra, mais le titre original c'est La disparition de l'univers. Qu'est-ce que c'est que ce monde réel et qu'est-ce que c'est que cet univers qui disparaît? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et je sais que beaucoup se posent la question. La vision du monde réel, c'est pas un autre monde, parce qu'on se dit où est le monde réel? C'est pas le monde réel est là-bas, il faut l'atteindre. La vision du monde réel, c'est quelque chose qui dépend de moi. C'est la vision du monde. C'est-à-dire que la vision que j'ai du monde dans lequel je suis, ici, un monde, avec cette planète et puis l'univers, et aussi on peut dire un monde relationnel, émotionnel, psychologique, bref, tout un ensemble, tout un qui est mon monde, eh bien le monde réel, c'est la manière dont je vais le voir qui change. C'est pas le monde qui change. Et le cours en miracle insiste bien en disant que vous ne pouvez pas avoir deux mondes. L'un exclut totalement l'autre. Effectivement, soit la séparation est réelle, soit elle n'est pas réelle. La vérité, c'est la vérité. Et pas, il n'y a pas une demi-vérité. C'était l'erreur de beaucoup, beaucoup de personnes qui ont suivi en particulier les enseignements de Jésus il y a 2000 ans, y compris même les disciples les plus proches. Et tout ça a mis du temps à fonctionner parce qu'on a voulu, amalgamer l'ancien et le nouveau. Et pourtant, il y avait déjà des paraboles que Jésus disait en disant « On ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres. » C'est l'un ou l'autre. Ou la séparation existe, ou elle n'existe pas. Ou Dieu est Dieu, ou Dieu n'existe pas. Et si Dieu est tout ce qui est, est-ce que Dieu est tout ce qui est, ou est-ce qu'il y a autre chose que Dieu ? Et souvent, parfois, en anglais, c'est la raison du miracle. Et là, c'est une raison, je dirais, une raison profonde, une raison de cœur. La raison du cœur qui est au-delà du miracle. C'est de laisser parler votre cœur et votre intuition profonde. Ressentir cette notion d'être, de non-dualité, d'unité de tout. Après tout, je suis là dans mon conditionnement, mais ça vient d'où ça? Nous sommes ici chez Avi, autour de cette table, notre ami, et puis vous êtes en train d'écouter cet enregistrement. Ça vient d'où ça? Et ensuite, vous allez faire autre chose. Ça vient d'où à chaque fois? Ça vient d'où ça? C'est le monde. Là où est le monde réel ici, là. C'est notre vision qui change. C'est notre vision qui change. Et la vision du monde réel, c'est la vision que tout est un. Et donc, si tout est un, il n'y a pas de séparation. C'est l'un ou l'autre. Ou il y a séparation, ou il n'y a pas séparation. Une femme est enceinte ou elle ne l'est pas. Elle n'est pas à moitié enceinte. Donc la vision du monde réel, c'est la vision intérieure qui change. Quel que soit le monde extérieur, je dirais même que je sois incarné ou pas incarné, que je sois dans mon expérience du moment, dans un peu, je sais pas, mais... C'est la vision intérieure. C'est pour ça d'ailleurs que quand on dit la vie, quand on dit la vie, on cesse, on appelle ça la mort physique, c'est la vie qu'on est vivant. Expérience qui la plupart du temps est très béatifique, très plaisante, très alléante, le poids du corps c'est merveilleux. Mais quelque part on revient. Ce monde irréel, parce que la vision, disons, la vision du monde réel, dans l'imagination dans un monde irréel mais qui nous paraît réel, c'est extraordinaire. C'est le retour à la maison. C'est fantastique. Donc la vision du monde réel, ça dépend, c'est une vision intérieure. C'est pas le monde qui change. D'ailleurs, très souvent, quand il y a un profond... Par le temps, il n'y a pas un changement dans la conscience extérieure. Pas toujours dans la conscience. Par le temps. C'est pas là que ça se place. La joie qu'on peut voir chez Raymond, par exemple, qui est ici autour de cette table avec nous, voir comment elle rayonne, comment. C'est pas parce que. Ah là, j'ai pris mon cancer, là, c'était affreux, etc. Non. C'est beaucoup plus profond que ça. Parce qu'elle a accès à tout. Elle a davantage accès au monde réel. Son cancer a été un outil, un instrument temporaire que son âme avait choisi pour l'aider. Avoir une vision du monde réel. Et du coup, tout sa joie. On peut voir d'ailleurs, et on voit certaines personnes qui ont un cancer et qui jubilent. Et qui disent, je vais probablement partir parce qu'elles sentent que c'est l'heure qui a été choisie au niveau. Mais partent dans la joie. Quittent le corps dans la joie. Pourquoi? Parce que c'est l'heure, c'est tout. On parle de la résurrection de Lazare il y a 2000 ans, effectivement, il y a eu effectivement. très probablement une imagination. Mais alors, de toute façon, on va tous quitter notre cœur, donc ce n'est pas une fin en soi. Disons qu'une résurrection physique ou la guérison d'un cancer, ce n'est pas une fin en soi. C'est simplement un outil important qui permet de voir autre chose. Et donc d'avoir davantage accès au monde réel. Encore une fois, quel que soit l'état apparent, cancer, pas cancer, même incarnation ou pas incarnation. Donc l'univers disparaîtra, c'est l'univers en tant que réalité séparée. Et dans le courant miracle, dans le texte, il y a une citation qui fait référence à la Bible, qui est la suivante. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » C'est une citation assez connue qui est dans l'Écriture, véhiculée par en particulier l'Église catholique. C'est dans les Évangiles. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Et dans le courant miracle, dans le texte, il reprend cette citation en ne citant que la première partie, c'est-à-dire « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Donc ça veut dire que c'est plus séparé, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a une expérience de séparation, une expérience duelle avec des individualités, mais avec la conscience de l'unité de toute chose. C'est ça la vision du monde réel. C'est très simple. Et c'est ce que nous sommes, c'est qui nous sommes. Donc il n'y a pas besoin de se casser la tête, il n'y a rien à chercher, rien à atteindre. Et là, nous parlions ensemble dans ce groupe, on se dit, mais on fait tous le même travail, simplement dire oui à l'instant. Oui, c'est tout, oui, d'accord, oui, j'accueille. J'accueille le jeu qu'on a choisi de jouer ensemble, un jeu de séparation, un jeu d'expérience humaine. Et ce fait de l'accueillir totalement, sans aucune retenue, qu'est-ce que c'est? Et à ce moment-là, progressivement, le monde est accès au monde réel, c'est le même monde. C'est réel, c'est l'espace. Rien de réel ne peut être. Et donc, tout ce que je vois dans le monde, dans la forme. C'est pas un but, ça. Bien qu'effectivement, on va connaître un état beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus beau, équilibré, joyeux. Mais le but, c'est la paix. Le but, c'est la joie. Le but, c'est d'être heureux, c'est tout. Et effectivement, quand on retourne à la maison, quand on reprend conscience du monde réel, mais c'est une joie extraordinaire, dont les uns et les autres témoignent quand on voit Raymond ici qui prend le micro, qui parle avec joie et qui s'exprime évidemment. C'est un superbe témoignage. Mais ce témoignage-là, c'est aussi vous qui écoutez ces paroles. On est tous des témoins. Et le fait simplement de dire oui, déjà, ça y est, tout de suite, c'est fait. On est témoins. C'est pour ça que le cours dit au début de la troisième partie du cours, qui est un manuel pour les enseignants. Et il dit, mais qui est enseignant de Dieu? Qui c'est les enseignants de Dieu? La réponse est, quiconque choisit de l'être.
quiconque choisit de l'être. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je dis oui à la vérité, ça y est, je suis enseignant de Dieu. Parce qu'effectivement, le cours nous dit dans le texte, vers le chapitre 19 ou 21, je ne sais plus assez, ou même plus que ça, enfin assez loin, ils disent on choisit toujours, ou c'est même chapitre 29 probablement, ça n'a pas d'importance. On choisit toujours, on ne choisit pas seul. Tout ce qu'on fait, on est tout le temps au choix les uns les autres ici, mais on ne choisit pas seul. C'est-à-dire, on choisit avec... Il y a deux façons de choisir. Soit avec l'ego, soit avec l'esprit. C'est-à-dire, soit avec la séparation. La séparation est réelle, donc j'attaque, je me défends, je me protège. Je protège aussi les autres, ma famille, mon clan, mon conjoint, etc. On veut. Soit je choisis avec l'esprit qui est un esprit d'amour. Je suis amoureux de tout le monde. Quand je disais qui sont les enseignants de Dieu, quiconque choisit de l'être, dès qu'on choisit la vérité, on est automatiquement enseignant de Dieu. On apprend ce qu'on enseigne pour les cours. Et tout le monde enseigne. Pendant longtemps, et c'est encore le cas pour beaucoup d'entre nous, très souvent, la plupart du temps, on enseigne l'ego, la séparation. Qu'est-ce qu'on enseigne les enfants? Qu'est-ce que la société enseigne? C'est Dieu. Et ça n'a rien de mal, c'est innocent. C'est simplement un jeu. La difficulté, c'est qu'on juge ce jeu et on s'en sent coupable. Et effectivement, il y a une raison. C'est que qui nous sommes, c'est un état tellement extraordinaire, tellement merveilleux. Et quelque part, il y a une partie en nous qui n'a pas oublié cet état. Profondément, ce qu'on fouille en nous. Et quand on... Quand on observe la peur, la culpabilité inhérente au monde de la séparation, qu'on croit réelle, eh bien, on se sent quelque part coupable d'avoir quitté, d'avoir imaginé quitter notre demeure initiale, qu'on n'a jamais d'ailleurs quittée. Et donc, il y a un conflit très fort. C'est de là que vient la culpabilité. En soi, le jeu de l'ego est tout à fait innocent, c'est un jeu, c'est tout. La difficulté vient que du fait que
alors je vais dire une chose qui n'a aucune importance, mais tout le reste, mais qui peut aider certains. L'esprit, c'est une étape. Il a fallu à partir d'un lui-même, des cailloux blancs pour retrouver le chemin de la maison. Et en particulier aujourd'hui, merci à Elisa de m'envoyer un lien qui s'appelle le puissant et le raison. Alors, c'est un scientifique.
hein, qui a fait un doctorat sur une science qu'il a lui-même appelée la psychophysique, que d'autres appellent les sciences du paranormal. Et il a étudié qui est conditionné à suivre le premier objet en mouvement qu'il voit près de lui lorsqu'il naît et à l'identifier comme son parent. Et il a fabriqué une sorte de robot, une boîte carrée, qui génère aléatoirement dans un processus électronique des 0 et des 1 d'une manière totalement aléatoire. Ça veut dire que sur un grand nombre d'occurrences, il y a autant de 0 que de 1, à peu près. Et le robot transforme ces 0 et ces 1 en mouvement et en rotation. Il y a des roues, donc il peut se déplacer et il peut tourner à droite, à gauche, aller en avant, en arrière. Donc il va apparemment, en fonction de son générateur aléatoire, il va apparemment n'importe où, nulle part. Il n'a pas de but, il n'a pas été. Alors, ils ont fait ce mécanisme qui consiste à donner l'empreinte du robot en étant les parents du poussin. C'est-à-dire qu'ils ont habitué le poussin pendant une semaine ou plus à la présence du robot. Ils suivaient le robot là où il était. Et lorsque cette empreinte a été faite chez le poussin, ils ont mis le poussin dans une cage aux parois transparentes, le robot dans un grand carré où il pouvait évoluer, le poussin voyant le robot. Et ils ont allumé le robot, et à ce moment-là, le robot commençait à se déplacer. Et qu'est-ce qu'on constate de très beau? Le poussin appelle le robot sans arrêt. Il veut rejoindre le robot. Parce qu'il est conditionné à ça, donc il met toutes ses intentions. Et c'est comme si sa mère était loin et qu'il voulait y aller. Et il pépille, il tourne et il bouge dans sa petite cage. Et en vérité, il appelle le robot et finalement, le robot va vers lui. Le robot, ils ont fait un grand nombre d'expériences, plus de 1000 expériences différentes, avec certains poussins qui n'avaient pas l'empreinte du robot et d'autres qui avaient l'empreinte pour le robot. Et ceux qui avaient l'empreinte du robot ont vu le robot se diriger vers eux deux fois et demi plus souvent. Que ceux qui n'avaient pas l'empreinte du robot. Et voilà, le docteur en physique a gardé tous les tracés des observations des mouvements du robot sur des pages en papier. Donc qu'est-ce que ça dit? Ça parle du pouvoir de l'esprit sur la matière, hein, ce que nous a rappelé Sylvain tout à l'heure, avec la nourriture et puis élargie. Et imaginons aussi que avec la l'innocence de ce petit poussin, toutes ses intentions puissent influencer un mécanisme complètement neutre et électronique qui ne capte pas, entre guillemets, a priori, les intentions du poussin, si on s'en tient à ce que la physique classique peut dire ou peut expliquer. Et pourtant, hein, les intentions du poussin modifient la séquence de nombres aléatoires que le robot génère. Et finalement, dans beaucoup plus de cas que d'ordinaire, rapproche le robot du poussin. Et dans certains cas, c'est presque en ligne droite. Le robot va presque directement sur le... Il dit bien que dans certains cas, ça ne marche pas, mais que la moyenne des cas est flagrante en direction de le poussin a une influence. Alors, si un petit poussin peut faire ça, hein, c'était la conclusion de l'expérience, que dire de nous en tant qu'être conscient, en tant qu'être avec un potentiel de croissance de conscience énorme? Et il y a eu des expériences de la même nature qui ont été faites avec des humains qui essaie d'influencer de la même manière un générateur de nombres aléatoires qui donnait sur un écran tout simplement un certain pourcentage de oui, un certain pourcentage de non. Et lorsqu'il se concentrait sur le oui, il y a plusieurs personnes en même temps qui faisaient ça, pouvaient faire infléchir le générateur vers le oui. Hein. Donc ça laisse bien sûr rêveur, hein, cette influence du pouvoir de l'esprit sur la matière. Et ceci sans qu'il y ait une présence simultanée de la personne qui pense au oui et de l'ordinateur qui génère les oui et les non. Ça peut être à l'autre bout du monde. Et il y a comme une communion, comme union des esprits pour dire c'est le oui que je veux. Hein, je veux un oui. Voilà, ça fait partie des choses que la science traditionnelle n'essaye même pas d'expliquer, qui ne rentre pas dans le champ de ses investigations et qui pourtant sont bien manifestes hein, dans ce monde. Voilà, c'était la rubrique sans aucune importance du poussin qui aime son robot plus que tout, jusqu'à faire dérailler complètement la science raisonnable. J'ai parlé.
Et là, je continue dans ce que tu viens de dire, Avi, parce que ça démarre avec, comme tu viens de le dire, un petit poussin, un petit robot. Le petit robot, il fait peut-être même pas 15 cm sur 15. Hein, c'est petit, ça marche très bien, c'est comme ça. Seulement, effectivement, ça touche à quelque chose de très très puissant. Parce que pourquoi? Parce que la conscience est une. Il n'y a que la conscience. Et par exemple, on est invité souvent à parler à sa voiture, parler à sa maison, parler à son chat, parler à son enfant. Une femme enceinte, elle peut parler à son enfant intérieur, avec des mots ou sans mots, parler en intention, parce que qu'il y ait des mots ou pas, c'est pas les mots. Bien que les vibrations peuvent jouer aussi, c'est utilisé. C'est l'esprit est un. Donc, il n'y a aucune limite. Alors pourquoi est-ce que, justement, par exemple, tout à l'heure, ce que nous avons reçu avec mon ami, le pouvoir de l'esprit prime sur le pouvoir de la nourriture et de la matière, mais vous n'utilisez pas ce pouvoir ou très peu. Pourquoi? Pas parce qu'on n'y croit pas, c'est tout. C'est une question de croyance. On se croit séparé, donc on croit extérieur. On a oublié qui nous sommes. On a oublié que nous sommes la conscience. Et il n'y a que ça, le Saint-Esprit ou l'Esprit que nous sommes. L'Esprit avec un E majuscule n'a aucune limite. Tout est possible. C'est pour ça qu'on a recours au miracle. Et donc ce phénomène, pourquoi est-ce que c'est autant le chaos? C'est parce que, comme dit le courant miracle, tous nos désirs sont en conflit. Nous passons notre temps à dire oui, non. Je suis attiré par
que l'argent même peut me permettre de faire d'autres choses, de participer à des nouveaux projets. Bon, j'ai peur, je me sens coupable, j'ai honte. Et puis j'ai vu que l'argent, souvent, c'était ça, etc. Donc je ne suis pas clair. Je dis oui, non. J'ai envie d'être connu, j'ai envie d'exprimer des talents et puis de participer à quelque chose, mais je me sens inférieur, je me sens pas aimé, je me sens rejeté. Je vis ça. J'arrive pas à exprimer mes talents parce que je me bloque. J'ai peur du regard des autres. Mais la timidité, c'est ça. Ça n'a rien de mal. Mais la timidité, c'est la peur du regard des autres, c'est tout. Et c'est comme ça pour tout. Donc, cette notion du pouvoir de l'esprit, où est-elle? En nous? Alors, évidemment, ça démarre souvent avec des expériences comme ça, mais c'est incroyable. L'expérience du petit poussin dont vient de nous parler Avi, ça a des répercussions infinies. Parce qu'il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que l'esprit. Et nous sommes en train de retrouver dans ce monde fortement duel, sur cette planète ici, qui est blottie dans le noir, qui est très très duel, où le libre arbitre a été autorisé avec un degré phénoménal. Nous sommes en train de retrouver notre vrai pouvoir, qui ne nous a jamais quitté. Seulement nous sommes souverains de notre monde. Personne ne va contre notre expérience et nos croyances. Nous avons imaginé dormir. Nous avons imaginé être séparés. Imaginé, nous abandonnons notre pouvoir. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous allons chercher des compagnons, des compagnes, pour essayer de retrouver un peu d'amour à l'extérieur. On va chercher aussi à faire des choses pour être connu. Donc à chaque fois, on s'accueille non reconnu. Si je cherche un compagnon ou une compagne pour me donner ce qui me manque, j'accueille ce qui me manque, dont je vis la réalité du manque. C'est pour ça que la quasi-totalité des relations de couple, que ce soit hétérosexuel ou homosexuel, c'est en train de changer, mais quelque part, ça ne marchait jamais vraiment. C'était ce que le cours appelait des relations particulières. C'est des relations qui sont un marchandage où on va chercher à l'extérieur. Seulement, j'ai oublié que j'étais créateur et souverain, et que je vis mes croyances. Et quand je cherche un compagnon, une compagne, ou même je veux avoir des enfants pour qu'ils me reconnaissent, etc., ou pour ceci ou pour cela, j'accueille un manque, j'accueille quelque chose, donc je vis le manque. J'accueille quelque chose qui n'existe pas, mais auquel je crois. Et nous vivons tous nos croyances. Et donc je vais agir, je vais faire des choix en fonction de mes croyances. C'est pour ça qu'évidemment, on ne choisit jamais seul. On choisit avec certaines croyances. Et le cours en miracle nous dit bien qu'il y a deux systèmes de croyances. Il n'y en a pas trois, il y en a deux. C'est soit la séparation existe, soit elle n'existe pas. C'est tout. Et c'est pour ça que cette non-dualité dont nous parlons ici, pour la plupart des gens, ça peut paraître tout à fait marginal. Mais c'est absolument fondamental. Tout le monde aspire au bonheur. Tout le monde aspire à l'harmonie sur cette planète. Tout le monde, sans aucune exception. Il est impossible d'imaginer un être qui voudrait être malheureux. Simplement, comme dit le cours en miracle, vous ne cessez pour faire le ciel d'utiliser des moyens qui font l'enfer. Et oui, vous êtes créateur, vous vivez vos croyances, et vous ne vous rendez pas compte que sans cesse, ce que vous vivez vérifie vos croyances, confirme vos croyances. Alors qu'est-ce qu'on va faire, puisque voilà, j'ai mes croyances. Et donc je suis foutu quelque part, parce que puisque j'ai ces croyances, j'arrête pas de créer un enfer, donc quelque part, ça va jamais se terminer cette affaire. Eh bien, la réponse, elle est dans un grand éclat de rire. La réponse, elle est au-delà de toute explication, parce que c'est, je viens de dire, cette affaire, ça va jamais se terminer. La réponse, c'est que ça n'a jamais commencé. C'est tout. C'est tout. Ça n'a jamais commencé parce que c'était impossible. Donc je repars tout de suite à ce qui est vrai. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule chose qui est un sens, c'est qu'est-ce qui est vrai? C'est qui suis-je? C'est tout à l'heure, Avi nous lisait le texte, qui suis-je, etc. Dieu est tout ce qui est, il n'y a que ça de vrai. Et donc, devant toute situation, tout problème, tout conflit, tout n'importe quoi, des expériences qui me semblent agréables, désagréables ou neutres, à chaque fois c'est qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce que je choisis là maintenant? Et moi, je le pratique tout le temps. C'est pas évident, parce qu'ici, on est au boulot ici. Je dis volontiers que la nuit, je suis très souvent réveillé à 2-3 heures du matin. Je sens de me lever, alors je me lève, ok, je vais à ma cuisine, je m'installe. Éventuellement, je me fais un café, je me fais pas de café, ça n'a aucune importance. Mais je prends du temps pour faire silence, reprendre conscience, alors que j'ai le mental qui tourne, état de pensée, parce que je capte, nous captons. Parce que nous sommes ensemble ici, 7 milliards sur cette planète. Nous captons énormément de pensées, de peur, d'angoisse, des pensées de séparation. Et donc, nous sommes tout le temps au travail. Je suis un peu dans la soupe, là, ok, je suis dans la soupe. Seulement, qu'est-ce que je fais? Je ne lâche pas la vérité. Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que Dieu est tout ce qui est? Oui. Et c'est là que le cours en miracle dit que là, on arrive à un point crucial de notre cours. C'est je choisis la vérité parce que c'est la vérité. Et qu'il n'y a rien d'autre que la vérité. Dieu est tout ce qui est, point, c'est tout. Et nous sommes cela. L'existence, l'état d'être, c'est incroyable. C'est éternel et non menacé. Donc réel. C'est esprit, c'est être, ce que j'appelle l'être-té, le fait d'être. Donc, d'une manière très pratique, dans la soupe, là, ou la nuit, dans la journée, ou même dans des situations difficiles, à chaque fois. Et vous savez très bien ce que c'est, vous conduisez votre voiture, vous êtes dans le métro, vous êtes en train ou travaillez au champ ou n'importe quoi, dans un transport public. Comment est-ce que vous êtes à ce moment-là? Comment est-ce que je suis seul dans ma cuisine à 3 heures du matin? Rien de spectaculaire. Je suis en accueil, c'est tout. Y compris de la soupe, y compris un peu de cette atmosphère lourde, de cette impression. Souvent un peu, oui, bizarre, un peu lourde, un peu comme si on est en attente d'autre chose. Oui, ok, très bien. Ben oui, on est au travail ici. Nous sommes incarnés pour retravailler, pour revenir ici, dans ce monde de dualité très forte, pour en sortir ensemble, dans des relations amoureuses. De vraiment des relations amoureuses sans aucune limite. Où toute personne rencontrée devient une occasion d'aimer, mais d'aimer vraiment, c'est-à-dire d'accueillir totalement, sans aucun jugement. On a parlé beaucoup de ça aujourd'hui, du non-jugement et de l'accueil. Bien sûr, on peut dire qu'on en parle toujours, c'est vrai. Eh bien, on en parlera toujours.
Merci Sylvain. Je ne peux pas être à la fois l'otage de l'ego et l'hôte de Dieu. Je ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Et je suis de plus en plus présente, consciente, bienveillante et amoureuse de qui je suis. Plus je me confie en fait à Dieu, plus il m'aime et plus je m'aime. Et je peux dire, oui, aujourd'hui, que je suis amoureuse de moi. Et j'ai le choix, en fait, d'instant en instant. D'instant en instant, je peux choisir la peur ou je peux choisir l'amour. Et jusqu'à maintenant, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans la peur. Je crois que si je disais 95% de mes actions ont été conduites par la peur, j'avais peur soit de ne pas être aimé, soit peur de déplaire, soit peur d'être abandonné, soit peur d'être blessé, soit peur de... Bon, la liste est énorme, très longue. Et en fait, dans cette année sabbatique que j'ai prise depuis la maladie, cette année que j'ai prise pour apprendre à m'aimer, Je me rends compte de jour en jour que j'ai le choix d'instant en instant du maître que je sers. Et quand je suis l'otage de l'ego, je suis dans la volonté déchaînée, je suis dans la force, je suis dans la peur. Et quand je choisis de servir Dieu, c'est joyeux, c'est fluide, c'est amoureux, c'est léger, c'est tranquille, c'est paisible. Et aujourd'hui, j'ai cette présence, cette distance, cette possibilité de choisir consciemment. Donc bien sûr, il y a encore des moments où je suis dans la peur, le doute, la méfiance. Mais de plus en plus rapidement, en fait, la paix s'installe et je fais le bon choix, quoi. Le bon choix, c'est le choix de Dieu. C'est, en fait, je lui demande régulièrement d'avoir sa perception, d'avoir sa vision, d'avoir sa pensée, d'avoir sa parole, d'avoir ses actes. Et c'est ça, lâcher prise, en fait. C'est lâcher prise de l'ego pour être au service, hein, pour être enseignant. Moi, je m'inscris, hein, là, j'ai un nouvel employeur, donc maintenant c'est Dieu, et ma nouvelle fonction, c'est d'être enseignante. Et je veux enseigner l'amour, je veux répandre l'amour, je veux enseigner la joie, la guérison, la beauté, la gentillesse, toute cette expression-là, en fait. Ça a été réprimé pendant tellement d'années qu'aujourd'hui, je ressens vraiment la nécessité, le besoin, l'envie, le désir d'arrêter d'empêcher le Saint-Esprit de me laisser être, en fait, dans le royaume infini de Dieu, qui est ce fameux retour à la maison et à l'amour dont parlaient Avi et Sylvain tout à l'heure. Merci.
Alors, j'ai envie de dire que je constate, de mon point de vue à moi, d'observateur du monde, je constate que le monde est en mutation à la fois subtile et profonde en ce moment. Pourquoi je dis ça ? Parce que je suis l'actualité de près, dans un seul but. Je regarde tous les jours les nouvelles et ce qui se passe, dans un seul but, déceler l'évolution de conscience du monde. Et donc tout ça, c'est neutre, ça n'a pas d'importance au niveau des faits qui se passent. Mais ces derniers temps, de manière assez inhabituelle, je constate que par petits sauts de puce, il y a beaucoup de petits faits qui semblent un peu insignifiants, qui semblent se cumuler pour accélérer la mutation du monde vers une nouvelle conscience. Alors, j'ai pas eu l'idée de les noter, mais j'étais impressionné par le nombre de petits faits. Alors, j'en dis quelques-uns qui me sont apparus. Et dans tous les domaines, je regardais un petit film documentaire sur l'agriculture et sur un champ de blé qui était diffusé sur Arte. Et à plusieurs reprises, en plein milieu du documentaire, il y avait une petite phrase qui semblait anodine et qui était de la propagande pour le bio. Et c'est la première fois que je vois une propagande positive. Une propagande, ça disait, voyez dans ce centimètre cube de terre, le nombre d'insectes, le nombre d'éléments vivants, il y en a énormément, ce qui bien sûr serait complètement impossible si le champ était noyé de pesticides. Et pendant un moment, je me suis dit, est-ce que j'ai bien entendu? Et pour bien conforter cette sensation, il y a eu deux ou trois passages dans le film où j'ai senti que c'était comme du subliminal. Mangez bio, vous verrez, vous vous sentirez mieux. Je me suis dit, ils sont en train d'employer les armes de la propagande négative pour faire l'inverse. Et je me suis dit, là, on nous entrons peut-être dans une nouvelle ère où il y a un changement dans les consciences qui peut se... Ensuite, j'ai vu dans les actualités que il y avait eu une interdiction prononcée contre certains pesticides nuisibles aux abeilles. Donc, malgré le pouvoir des lobbies et des laboratoires pharmaceutiques, le monde... il y a eu une percée de conscience dans ce que nous ne pouvons pas juste nous concentrer sur un point en oubliant que ça a un impact sur toute notre vie. Et pourtant, le poids des lobbies pour interdire, pour contrer ces interdictions a été sans précédent. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il est sorti un documentaire qu'aucun producteur n'a voulu financer, tellement ça sortait des normes de cette société. Il s'agissait de divulguer la présence des extraterrestres et il s'agissait de donner des informations sur l'énergie libre et de dire la vérité, tout simplement. Ce documentaire s'appelle Sirius. Il est déjà diffusé, il va sortir en DVD. Il a été financé par qui ? Par le peuple. Chaque personne individuelle a donné 10 euros, 10 dollars, 50 dollars, 1 dollar, et ils ont financé l'intégralité du documentaire par le pouvoir du peuple. Donc le peuple reprend le pouvoir. Donc moi j'entends bien sûr les choses qui sont en dessous les faits. En même temps que Sirius, il y a eu une initiative populaire qui a décrété 5 jours aux USA d'audience populaire de divulgation. Donc tout ce que nous savons, tout ce que les individuels savent, ou les anciens généraux, ou les anciens de la NASA, ou les anciens de la CIA, tous ceux qui savent des choses, pendant 5 jours, sont allés devant un public dire la vérité, dire leur vérité, dire les faits. Et encore une fois, c'est une audience citoyenne. Ça vient du peuple, et c'est le peuple qui a organisé ça. Ça continue, Donc, de quoi ça parle? De la vérité. La vérité, elle est bien sûr, elle est relative, c'est la vérité de notre monde, mais c'est arrêter de masquer les choses. Ensuite, il y a eu une proposition de loi, tenez-vous bien, à l'Assemblée nationale pour mettre fin à l'obsolescence programmée des appareils électroniques. Une imprimante est faite pour tomber en panne au bout de 2 ans. Et aucun réparateur n'accepte de la réparer parce que ça coûte plus cher que d'en acheter une nouvelle. Et il y a un député qui a proposé d'abroger ça, d'interdire. Et c'est volontairement programmé que une ampoule électrique claque après 1000 heures. C'est volontairement programmé. Pourquoi? Parce qu'il y a une ampoule électrique qui est dans une base de sapeurs-pompiers aux États-Unis qui brille depuis 100 ans, jour et nuit. Parce que c'est possible. et que ils ont réduit l'épaisseur du filament pour que ça tienne 1000 heures, et que il y a eu un accord tacite entre tous les fabricants. Il y a eu un fabricant qui avait 1600 heures, et il a eu une pénalité, une sanction de 16 000 dollars ou plus, et tout simplement parce que il a rompu l'accord tacite de l'obsolescence de ces ampoules. Une ampoule qui brille, c'est très bien, mais si on n'en revend pas une dans les mois qui suivent, ça ne sert à rien. Un bas en nylon qui ne file pas, tel qu'étaient les bas en nylon d'origine, c'est super, mais ça ne fait pas vendre. Et donc, ils ont changé la formule, parce que les bas d'origine étaient infilables. Changer et ajouter le fait qu'ils soient dégradés par les ultraviolets au bout d'un certain moment, et qu'ils s'abîment. Alors, bien sûr, tout ça n'a aucune importance réelle, hein, puisque ce sont que des faits de notre monde duel. Mais l'idée d'élévation de la conscience de l'humanité, ça a une importance. Ça nous rapproche de qui nous sommes. Ça nous rapproche de soyons honnêtes, soyons vrais et parlons avec le cœur et aidons-nous les uns les autres à prospérer plutôt qu'à nous mettre en esclavage. Après, il y a eu des tas de scandales. C'est quoi un scandale ? Tout d'un coup, la vérité éclate. Les médicaments qui tuent les personnes, c'est pas fait pour ça, hein, même si il y a besoin d'aucun médicament pour se guérir. Mais en filigrane, c'est le pouvoir de soumettre ou de mettre en esclavage le peuple est remis en question, hein, parce que tout d'un coup, la vérité est su, est connue. Les prothèses mammaires qui sont complètement déjantées et qui aussi nuisent aux personnes ou qui éclatent, tout ça, ça fait partie de, pour moi, réveillez-vous, regardez ce qui se passe dans le monde, arrêtez de dormir, hein. Et il y a plein de mini-événements, de micro-événements, pour moi, qui se passent continuellement et qui ont pour but de titiller notre conscience en disant « Est-ce que c'est ça que je veux ? Ou est-ce que c'est un monde d'amour que je veux ?» Et donc, ce n'est qu'une actualité sans réelle importance. Mais, mis bout à bout, je vois un monde en mutation. Et je le vois maintenant, hein, je suis l'actualité depuis des années. Et sans aucune raison apparente, hein, je n'accorde pas d'importance particulière à un événement ou à un autre, mais à l'augmentation du niveau de conscience, j'accorde une importance radicale, hein, puisque c'est vraiment ce que je veux pour moi déjà. Voilà, donc j'avais envie de dire que ça n'est peut-être pas visible, c'est comme le texte qui parle de la conspiration spirituelle. Beaucoup de gens œuvrent dans l'ombre et sans être des vedettes pour un monde meilleur et sans avoir besoin de paraître dans le journal. Il y a comme une armée de personnes qui s'élèvent pour la vérité et qui le font sans aucun bénéfice apparent, hein, qui le font en filigrane dans notre monde, et ce qu'on appelle la conspiration spirituelle. Avec, au final, le but de mettre plus de conscience dans nos vies, hein, pour peut-être nous poser les vraies questions. Hein. Lorsque nous dormons, nous ne posons pas les questions pertinentes. Nous disons encore des biens de consommation, encore de l'argent, encore du pouvoir, encore du plaisir, encore... et puis nous oublions l'essentiel, hein, qui dit qu'est-ce que je veux vraiment, hein, par-dessus tout, qu'est-ce que je veux ? Moi, je veux être heureux vraiment, arrêter les dépendances affectives, être dans mon bonheur intérieur plein, sans concession, hein, faire ce qui m'anime réellement, ce qui me fait bondir de joie, c'est ça mon œuvre, c'est plus un travail, c'est plus un esclavage où je dois gagner de l'argent pour subsister, pour et faire des choses qui me sont insupportables. Voilà ce que je voulais dire. Je vous invite à être vigilant parce que en dessous ces fêtes-là, il y a un niveau de conscience qui se réveille. Ces fêtes-là ne sont pas possibles s'il n'y a pas une conscience sous-jacente. C'est impossible. Et donc ils sont le reflet du niveau de conscience du monde qui est en train de bouger. Et donc auparavant je ne les notais pas. Je suis sûr que j'en ai dit très peu. Mais j'ai commencé une page et je vais maintenant consigner. Ça me met en joie, hein, réellement d'être témoin de ces mutations-là, qui ne sont pas des mutations génétiques, hein, c'est des élévations de niveau de conscience. S'il y a un journaliste qui veut arrêter d'être soumis au dictat de la pensée unique, alors il va commencer à dire des choses qui ne seront pas forcément dans le sens de ce qu'on voudrait entendre, de ce que sa direction voudrait entendre. Voilà, donc le documentaire Sirius, c'est 1h56, entièrement composé de faits, de choses factuelles, qui sont pour la plupart cachées depuis une soixantaine d'années. Encore une fois, les faits en eux-mêmes n'ont pas une importance fondamentale, mais le fait que ce documentaire ait vu le jour est important. Hein. Comment il a pu voir le jour? Parce que suffisamment, il a coûté des millions de dollars, hein, à produire. Suffisamment de petites gens ont versé de petites sommes pour réunir des millions de dollars. C'est important, ça. Parce que ce sont une compilation de niveaux de conscience individuels qui font que un film qui parle de vérité puisse voir le jour. Pourquoi il n'est pas sorti il y a 2 ans, pourquoi il n'est pas sorti il y a 10 ans et pourquoi il sort maintenant? Maintenant, il y a ce qu'on appelle le crowdfunding, c'est-à-dire le financement par la foule. Crowd, c'est la foule. Hein. Le financement populaire. Et maintenant, n'importe quel projet que n'importe qui peut avoir peut déposer sur un site internet en disant, vous trouvez que c'est juste, collaborez, versez $5. Et si le projet se réalise, vous aurez tel bénéfice. Versez $10, vous aurez tel bénéfice. Vous aurez un retour. Hein, donc vous investissez dans ce que vous trouvez juste. Et donc c'est une sorte de pouvoir du peuple. Hein. Le peuple reprend son pouvoir. Voilà. Il est temps d'arrêter officiellement ce groupe, qui n'empêche pas qu'entre nous, nous puissions continuer officieusement, hors micro, à échanger entre nous, plus informellement, à nous couper la parole joyeusement, à parler, à dire des bêtises, ou pas, ou à ce que nous souhaitons faire. Donc, toi qui écoutes à distance, tu entends ce qui se dit, mais si tu veux entendre aussi les silences profonds, viens nous rejoindre. Si tu veux aussi faire partie de ce qui n'est pas enregistré, viens nous rejoindre, bien sûr, si c'est possible. Voilà, avec beaucoup d'amour à ceux qui nous souhaitent, qui nous écoutent à distance et qui nous soutiennent aussi à distance très régulièrement par leurs messages hein, qui arrive jusqu'à moi. Merci du fond du cœur. Et je fais résonner à nouveau le vaisseau de cristal qui nous emmène dans un voyage, hein, vers notre vérité profonde. À très bientôt.